Question d'islam par Al-Benchir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Hassan Aourid. Hassan Aourid, bonjour.
Bonjour, c'est Ralup.
Nous sommes ravis de saisir l'opportunité de votre passage à Paris. Vous qui êtes politologue, écrivain, ancien porte-parole du Palais Royal au Maroc, vous avez exercé cette mission et vous vous en êtes si bien acquitté pendant 6 ans, de 1999 à 2005. Et vous êtes aussi professeur. Et nous nous adossons sur une compilation des cours que vous avez donnés à Sciences Po Bordeaux. Et là, tout particulièrement, nous essayons de comprendre avec vous et avec votre regard avisé les origines à la fois du monde arabe et par-delà du monde islamique. Et en préparant cette émission, quelques instants avant même l'antenne, vous me disiez que nous essayons de comprendre la fin des idéologies laïques et pourquoi il y a eu cette résurgence de l'islamisme politique et le fait de instrumentaliser, manipuler, idéologiser la donne religieuse pour d'autres fins que spirituelles.
Tout à fait. Au fait, mon livre était effectivement des cours que j'avais dispensés à des étudiants français. Donc, Sciences Po Bordeaux, sur le monde arabe. Il fallait un peu comprendre pratiquement les origines du marasme arabe. Et j'ai commencé donc d'un fait marquant, l'expédition de Napoléon. Car on l'oublie, la France était pour quelque chose dans pratiquement l'émergence de ce qui s'appelait donc la Renaissance égyptienne. Et un certain nombre de Saint-Simoniens donc étaient derrière en fait le renouveau. À titre d'exemple, donc le fondateur de l'armée égyptienne, Soleiman Pacha, était français, converti à l'islam. Donc j'étais parti de cette séquence marquante. Et j'ai terminé par ce que j'avais appelé donc la fin du rêve. Nasser avait incarné un rêve. Pour multiples raisons dont je ne pense pas que ce soit l'occasion de nous y attarder. Et sur les décombres finalement de la chute de cette idéologie qu'il y aura l'émergence de l'islamisme. Autant finalement Nasser donc incarne donc la chute des idéologies laïques, autant finalement l'après 67 donc donnera quitus à l'émergence de l'islamisme, dans le monde arabe, en Égypte d'abord et dans le monde arabe par la suite.
Alors vous étudiez dans un premier temps une sorte de fresque historique sur un siècle et demi ou 160 ans et quelques. Voulez-vous dire un mot du début de cette... les conséquences de cette campagne de Bonaparte et le début du 19e siècle et notamment avec la venue de... quand il est venu à Paris, il repart subjugué en écrivant son fameux « L'or de Paris », l'or du métal. Et c'est comme ça qu'il y a un début de renaissance, de résurrection, de renouveau. Et pourquoi, selon vous, Hassan Aourid, ceci n'avait pas abouti?
Écoutez, d'abord, il faut quand même rappeler ce fait. Vous avez bien fait donc de rappeler... l'impact donc de l'expédition de Napoléon. Napoléon n'était pas venu qu'avec des armes, il est venu avec d'autres armes, j'allais dire plus redoutables, c'est-à-dire la science. Donc il est revenu pratiquement par les ingénieurs de l'école des arts et métiers, lesquels ingénieurs avaient pratiquement fait un travail monumental contenu dans ce qui s'appelle description de l'Égypte moderne. Donc Napoléon n'était pas venu en conquérant et quand il est parti, ou quand il devait partir, donc suite finalement à la guerre qu'il avait perdue contre les Britanniques, Mohammed Ali donc, n'avait d'autre choix finalement que de suivre la politique de Napoléon. Donc le modèle sur lequel il allait s'appuyer, c'était finalement celui qui a été instauré par une modernisation de l'Égypte, une réconciliation avec l'Égypte profonde et avec les institutions donc, de l'Égypte, qui était à l'époque sous la férule donc, de l'Empire ottoman, y compris Al-Azhar. Et par la même occasion, il allait envoyer donc, des délégations pour finalement chercher la science. Et parmi donc, ces personne. Donc, il y avait Rafah at-Tahtawi, qui était parti que, comme simple imam. Donc, il devait finalement accompagner des princes et des enfants bien-nés.
On aurait dit ici un aumônier.
Oui,
un
c'était cela, en fait. Aumônier. Absolument, tout à fait, tout à fait. Or, paradoxalement, c'est cet aumônier, entre guillemets, qui va tout simplement surprendre par un sens critique et d'observation, contenu dans son livre « L'or de Paris », écrit bien sûr dans un arabe traditionnel. Donc il était marqué déjà par la première chose qu'il avait marquée à Marseille, c'était la division du travail. C'était chose qu'il avait marquée. La deuxième chose qu'il avait marquée à Paris, c'était le fait que les hommes et les femmes vivent ensemble. Chose qui était à l'époque pratiquement insensée et incompréhensible pour un ouléma, parce qu'il était ouléma issu de l'Azhar. Et de commenter comme quoi le fait qu'un homme embrasse une femme ne veut pas dire qu'en fin de compte que ce soit attentatoire aux bonnes mœurs. La troisième chose qu'il avait marquée, c'est la fonction du savant. Alors il disait comme quoi on peut être savant sans croire en Dieu, car pour un Azharite n'est savant que celui qui finalement étudie donc les textes. Donc autant de choses contenues dans ce livre qui est considéré comme étant un peu de la démocratie en Amérique de Tocqueville. Bon, malheureusement, ceci n'a pas eu de suite. Parce qu'en fin de compte, Mohammed Ali a plus investi finalement dans l'armement, dans l'industrialisation, moins dans l'éducation. Ceci étant, Rafah at-Tahtawi a initié quelque chose de fondamental. C'est la traduction. Il a traduit de grandes œuvres.
Télémaque
de Fénelon, absolument, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est le fondateur de la presse aussi. C'est lui qui donc a jeté les bases, Waqa'i al-Misriya, les chroniques égyptiennes, etc. D'une certaine manière, Rafah at-Tahtawi est le maître et le père finalement spirituel du renouveau égyptien.
Bien, donc ça va crescendo. Quasiment tout au long du 19e siècle, il y aura une charnière 19e, 20e siècle. Et puis, pour X raisons intrinsèques et extrinsèques au contexte arabe, ici, dans cette émission, si nous parlons du contexte arabe, nous ne voulons pas réduire le monde islamique uniquement au monde arabe, mais nous saisissons votre ouvrage, ce qui est dedans, Hassan Aourid, pour parler du cas emblématique du monde arabe, sans le réduire bien sûr, au cas islamique. Je voulais le dire d'emblée dans l'émission. Passons vite.
Je voudrais quand même dire une chose. L'apport apporté par les chrétiens arabes, je crois que quelque part, on ne peut passer sous le boisseau le gigantesque travail qui a été fait par les chrétiens arabes. D'abord, dans le renouveau de la langue arabe. Je pense ici à Boutros el-Boustani, Nassef el-Iaz et d'autres.
La famille Al-Marrache.
Ah, oui, absolument.
Gibran, Khalil Gibran.
Par la suite. Mais je pense donc. Et d'une certaine manière, on oublie que la langue que nous utilisons aujourd'hui, elle est nouvelle, est une création. Et le mérite revient à ces chrétiens arabes. Je pense qu'il est fondamental de le rappeler. D'ailleurs, pratiquement les fondateurs du journal le plus ancien à l'Ahram, c'était deux chrétiens, donc libanais. Voilà. Donc je tenais quand même à rappeler l'apport des chrétiens arabes dans ce qui s'appelle Nahda, la Renaissance.
Vous avez si bien fait, et puis nous verrons même que sur le plan politique, la vision pan-arabe transcendait les clivages confessionnels.
Incontestablement, le premier congrès arabe s'est tenu en 1913, ici même à Paris, où il y avait à la fois les musulmans et les chrétiens. Et d'une certaine manière, déjà depuis pratiquement 1913, ce clivage musulman-chrétien n'existait pas. C'est-à-dire que l'arabité transcendait. Et Amin al-Rayhani, qui était chrétien, disait « Je suis d'abord arabe avant d'être juif, chrétien ou musulman ». Et l'arabité, même dans le discours de celui qui a porté la bannière donc de renouveau sur le plan politique, l'émir Faisal Ibn al-Hussein, le hachimite, il se distinguait, il se définissait comme étant d'abord arabe. Voilà. Donc l'arabité dépassait donc l'islamité.
Et vous trouviez ça aussi même dans une vision d'Al-Kawakibi?
Clair, le Kawakibi était initialement pratiquement le précurseur d'une forme de sécularisme. contenu dans son livre où il décortique un peu le système tyrannique, les traits du système despotique, Taba et al-Istibdad, etc.
Les caractéristiques,
peu importe finalement, etc. Et on le trouve aussi dans un livre où il avait imaginé un congrès islamique au Melkora, donc Melkora qui est tout simplement le synonyme de la Mecque.
Qu'on traduit par la mère des cités.
La mère des cités ou la cité emblématique, oui. Etc. Bon, d'une certaine manière, il était précurseur. Et donc, je pense que si on doit dater, donc finalement, les origines du sécularisme, il y a le Kawakibi, il y a aussi un chrétien arabe libanais, Najib Azouri, donc, qui a écrit d'ailleurs un livre en français dans les années 1908, La Nation arabe. Et qui était l'un des premiers concepteurs donc, de la nation arabe et l'un des précurseurs du sécularisme.
Donc tout cela, finalement, était bien parti avec cette idée d'une nation qui, vous l'avez si bien dit, transcende les clivages liés à l'appartenance confessionnelle. Et puis, qu'est-ce qui fait que les idéaux de démocratie, d'égalité des citoyens par-delà leur appartenance, et puis même le parlementarisme, tout cela n'a pas été suivi des faits, et puis ces idéaux-là ont été trahis.
Écoutez, les choses sont compliquées. D'abord, il faut quand même rappeler une chose, c'est quand même le monde arabe a été plus déterminé que déterminant. Il était l'enjeu finalement de rivalité des puissances européennes. Et sans vouloir jeter l'anathème sur pratiquement donc les forces extérieures, il y a incontestablement des responsabilités internes. Mais on ne peut pas non plus finalement négliger le jeu extérieur. Bon, ce qu'on appelle communément les accords de Sykes-Picot qui ont départagé la région. Peut-être aussi se considèrent comme quoi pratiquement la déclaration de Balfour, etc. pour un foyer, etc. Bon, bien sûr. Ce n'est qu'une partie de l'analyse. Il est fondamental de rappeler que, quelque part, l'élan moderniste, du moins en Égypte, a été arrêté par, ou du moins freiné par la montée de l'islamisme, par les frères musulmans, et essentiellement le mouvement qui était donc initié par Hassan el-Banna. Quand vous voyez l'Égypte des années 30, elle était à l'avant-garde pratiquement des idées libérales avec Tahsin et Lotfi Sayed et autres. Or, tout cela, finalement, pratiquement...
On pouvait écrire un ouvrage intitulé « Pourquoi je suis athée » et son auteur n'est ni oxy, ni bastonné, ni brûlé vif dans une cage. Je pense à Adel Ahmed Adam, qui l'écrivait, on lui répondait par un autre ouvrage.
Oui, mieux. C'est-à-dire que, par exemple, le grand ouléma, Mohamed Abdou, avait correspondu avec un chrétien, Farah Anton. Et c'est finalement au terme de cet échange épistolaire que Mohamed Abdou a forgé la notion d'Awl al-Madaniyah, qui est tout simplement l'État laïque, en fin de compte. En fait, l'État civil ne rend pas exact, etc. Mais c'est tout simplement... Et donc, un ouléma issu d'Al-Azhar pouvait correspondre avec un copte laïque, Farah Anton, sans que cela finalement porte finalement à émettre une fatwa, etc. Donc, c'était possible. Il me semble que la montée de l'islamisme, que la montée essentiellement d'une certaine, finalement, version de l'islam a été à l'origine de l'arrêt de cet élan moderniste en Égypte, et ceci a déteint pratiquement sur tout le monde arabe. Avec l'arrivée des militaires, je pense que quelque part, l'arrivée des militaires a été, à mon sens, un élément néfaste.
Je ne voulais pas vous interrompre, mais je n'étais pas empêché de penser à Mohamed Abdou qui est mort en 1905.
Tout à fait.
Mais deux ans plus tôt, et tout particulièrement le 28 octobre 1903, il édicte sa fameuse fatwa dite du Transvaal, où il autorise le fait de manger de la viande non abattue rituellement, etc. C'est pour dire qu'on essaye de se débarrasser du légalisme drastique de la norme religieuse et d'épouser son temps. Alors, continuons avec vous, et c'est vraiment, je le dis, je le pense fondamentalement, cette analyse que vous présentez, Hassan Aourid, nous met au cœur à la fois du marasme du monde arabe, mais aussi ça nous explique les origines de l'islamisme politique. Ça vient avec Hassan al-Banna et la confrérie, l'association des frères musulmans, comme une réaction à l'abolition du califat.
En principe, donc c'était effectivement donc premiers balbutiements finalement des frères musulmans, ou d'une interprétation littéraliste donc de l'islam était venu en conséquence à l'abolition du califat. Donc d'abord avec un certain Rachid Reda. Donc c'est un maillon très important finalement pour comprendre pratiquement. Bon, c'était un disciple de Mohamed Abdo, mais c'est lui qui va réorienter.
Il a corsé un peu.
C'est-à-dire qu'il va réorienter finalement l'héritage vers plutôt une interprétation littéraliste. Oui. Il est fondamental pour comprendre pratiquement la dérive, si je peux m'exprimer ainsi, de s'arrêter donc sur Rachid Reda. Incontestablement, j'allais presque dire que l'abolition du califat était un prétexte. Mais les problèmes sont beaucoup plus complexes, parce qu'en fin de compte, l'Égypte allait finalement amorcer une modernisation suite à la Première Guerre mondiale, et qui n'avait pas finalement profité aux couches, disons, petites gens. Donc il y a des raisons économiques à cela. Je crois que quelque part aussi, les contre-coups de la Première Guerre mondiale avec la montée du fascisme est un élément qui explique aussi pratiquement. D'ailleurs, les méthodes adoptées par les frères musulmans, finalement, s'inspiraient des méthodes fascistes. Le fascisme n'était pas perçu comme étant pratiquement quelque chose de négatif, d'abord dans son esprit, dans sa philosophie et dans son modus operandi. Donc, il y a un faisceau d'éléments qui explique finalement la montée donc, des frères musulmans. Incontestablement, l'abolition du califat par Mustafa Kemal Atatürk est un déclic, mais il n'explique pas tout.
Oui, ce n'est pas comme on le dit souvent, le traumatisme était tel qu'on voulait réagir ainsi. Mais je le dis sous votre contrôle, Hassan Aoulid, vous pensez aussi aux manigances et aux manœuvres du roi Fouad Ier qui voulait être calife à la place du calife, si
c'était,
je puis dire.
C'était un fait. D'ailleurs, pratiquement, la chose remontait bien avant l'abolition. D'ailleurs, si vous lisez le livre et vous avez donc rappelé donc El Kawakibi, Fouad Ier lorgnait donc sur cette charge. Déjà, nous sommes déjà donc à l'orée du 20e siècle, etc. Mais après coup, effectivement, donc Fouad Ier, donc le roi d'Égypte, lorgnait sur cette charge. Il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul parce qu'en fin de compte, le shérif de la Mecque aussi postulait pour la charge. Pour la petite histoire, bon, même Lyautey avait pensé à un moment comme quoi le sultan du Maroc pouvait finalement être le calife de l'Occident, enfin, musulman. Bon, ça, c'est des faits. Bon, il n'a pas été entendu parce qu'en fin de compte, la France était laïque, ne pouvait pas cautionner donc une telle idée. Donc, il est tout à fait vrai que Fouad Ier, donc lorgnait sur la charge du calife, mais il n'était pas le seul.
Bien. Alors, vous avez évoqué, à juste raison, l'après-coup ou le contre-coup de l'entre-deux-guerres et la montée du fascisme, il va y avoir aussi des secousses telluriques, si je puis dire, après la Seconde Guerre mondiale, notamment dans cette région du monde arabe. Et puis, je ne sais pas, je le dis comme ça, la campagne de Suez.
Bah, écoutez, bien avant d'arriver à la campagne de Suez de 56, je pense qu'il faut s'arrêter à 48. 48, donc avec l'émergence et la création de l'État d'Israël. Ce qu'un politologue italien appelle le Big Bang. Son nom ne me revient pas, mais c'est le Big Bang. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'était un élément déterminant dans l'évolution. La défaite des armées arabes en 48 a été donc... et avec ce qu'on appelle la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe. Or, la catastrophe n'est pas que le fait que les Palestiniens soient expulsés de leur terre, mais c'est en fin de compte la déliquescence d'une culture politique et l'émergence d'une autre. Je pense qu'il est fondamental d'avoir à l'esprit qu'à partir de ce moment, une nouvelle élite va tout simplement apparaître au détriment d'une autre. Une élite qui était plutôt subtile, qui connaissait l'Occident, et ça sera donc finalement l'avènement essentiellement des militaires qui vont prendre le pouvoir. Je crois qu'il est fondamental, et donc les contre-coups de 48 vont d'abord déteindre sur toute la région, l'Égypte d'abord, avec le coup d'État donc des frères, des officiers libres. La même chose aura lieu quelques années auparavant en Syrie. Il y aura même un phénomène nouveau, les assassinats, c'est-à-dire le terrorisme. Le roi Abdallah trouvera la mort, etc. Et bon, tout cela finalement préparera un grand tournant, finalement la prise du pouvoir par Nasser. Donc, de 52 jusqu'à 55, Nasser se cherchait. Donc, mais en 56, c'est effectivement une nouvelle donne, une nouvelle conséquence avec ce qu'on appelle l'agression tripartite sur l'Égypte, donc ou la guerre du Sinaï, avec les trois pays, la France, la Grande-Bretagne et Israël. Et c'est la renaissance, finalement, de Nasser. C'est là où Nasser devient, finalement, un héros qui, dont l'aura dépasse l'Égypte. Donc, effectivement, je suis d'accord avec vous. Je voudrais quand même dire une chose sur 56, parce que, finalement, c'est la fin aussi de l'impérium franco-britannique sur la région et l'émergence du tandem américain et soviétique.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec l'intellectuel Hassan Aourid, intellectuel marocain, politologue, écrivain, historien, ancien porte-parole du Palais Royal. Et nous parlons aujourd'hui et nous utilisons son livre comme base de discussion aux origines du marasme arabe et nous essayons de comprendre avec lui, avec vous, Hassan Aourid, la montée de l'islamisme et de l'islamisme politique. Alors, vous parliez de cette résurrection politique, en tout cas, et l'aura qu'aura Nasser, mais elle ne durera pas longtemps, puisqu'il va y avoir, sinon une Nakba, une Naksa, comme vous dites si bien, encore un autre déclin, une autre chute.
Bah, écoutez, 55, quand Nasser est parti, donc, et qu'il avait assisté à la réunion de Bandung, c'était ce qu'on appelait à l'époque les fiançailles. Mais la consécration du mariage avec les foules, c'était à partir de 56, et donc Sinaï. Donc il sera la grande figure qui va utiliser pratiquement un instrument pour toucher les foules, la radio. Donc quelque part, en fin de compte, le phénomène Nasser ne peut se comprendre sans finalement l'impact du transistor. Et, bon, il était incontestablement aidé par...
La radio est toujours un média exaltant.
Surtout à l'époque. Surtout à l'époque, incontestablement. Ça l'est toujours, mais beaucoup plus à l'époque. Mais ceci étant, donc, il avait le verbe facile, un langage pratiquement familier et simple, une voix chaude, etc. Et, bon, tout cela aura fin en 67, avec... pratiquement, la défaite de l'armée égyptienne, donc, en juin 67. C'est l'émergence de ce qu'on appelle la Naksa, hein, c'est-à-dire la chute. Et le monde arabe, l'Égypte d'abord, va changer, et tout cela va déteindre sur toute la région.
Et du coup, je le dis toujours sous votre contrôle, vous qui connaissez ces choses-là, vous les enseignez à Sciences Po Bordeaux, il va y avoir à la fois, ou après avoir lutté d'une manière farouche contre l'islamisme politique, contre Hassan al-Banna, contre Sayyid Qutb, ses précurseurs ou ses grandes figures ou ses protagonistes de cet islamisme politique, il va y avoir par la suite, avec lui-même ou d'autres, une sorte on cède aux sirènes islamisantes.
Bah, écoutez, effectivement, initialement, ça, il faudra peut-être le rappeler, un certain nombre de membres des officiers libres flirtaient avec les frères musulmans. Sinon, étaient membres. Sadat était membre de la confrérie des frères musulmans. Nasser avait des contacts, etc. Le divorce aura lieu en 54. Et particulièrement lors de l'attentat contre Nasser. Al-Manshiya, voilà. Donc Al-Manshiya au faubourg donc d'Alexandrie. C'était pratiquement le divorce. C'était pratiquement le divorce. Suite à cela, donc Saïd Qutb, le grand idéologue, sera jugé et donc emprisonné. Il passera pratiquement 10 années en prison. Suite à soi.
L'auteur de Jalons sur la route Jalons ou sur un la signe route. Sur la piste.
Absolument, tout à fait, tout à fait. Donc qui va écrire d'ailleurs en prison. Donc qui est un peu la vulgate de tous les mouvements islamistes radicaux, en fin de compte. C'est un peu le que faire donc des marxistes ou des donc Qutb sera envoyé en prison. Il sera par la suite donc même jugé et pendu en 66. Après 67, Nasser va entamer une nouvelle politique, la réconciliation avec finalement les tendances conservatrices, chose qui va être, disons, menée de manière beaucoup plus accélérée, de manière beaucoup plus, comment dirais-je, de manière beaucoup plus claire avec Sadat. Donc la fin de 67, donc l'échec de l'idéologie panarabe qui était laïque, finalement, donc, donnera naissance à l'islamisme. Donc, l'islamisme va émerger sur les décombres du panarabisme.
Oui, nous avons évoqué avec vous un des mots à Maux du monde islamique, notamment du monde arabe avec les frères musulmans. Vous évoquez aussi le wahhabisme.
Incontestablement, le wahhabisme. Qui était l'idéologie fondatrice de l'Arabie saoudite et qui procédait d'une interprétation littéraliste du texte, littéraliste et rigoriste. Or, le wahhabisme ne sera en fin de compte marquant sur la scène régionale qu'après 73. C'est-à-dire qu'on ne peut expliquer finalement et comprendre le wahhabisme que grâce finalement à la montée des prix du pétrole. C'est en fin de compte le phénomène des pétrodollars qui va donner de l'aile au wahhabisme et qui va sortir du contour finalement de l'Arabie pour avoir finalement des extensions dans tous les pays du monde arabe, mais pas seulement dans le monde arabe. Vous trouverez pratiquement des ramifications au Pakistan, en Afrique subsaharienne, etc. Donc le wahhabisme ne peut pas s'expliquer seulement par finalement, disons, sa rhétorique ou par son discours. Il est fondamental d'avoir à l'esprit pratiquement l'élément adjuvant, à savoir les pétrodollars. Voilà. Donc, et à partir de 1973, l'Arabie saoudite va peser sur l'échiquier du monde arabe.
Alors, est-ce que nous pouvons ajouter à ces deux mots un troisième mal qui serait la révolution khoméniste? On n'est plus dans le monde arabe, mais la mondialisation aidant, nous sommes au dernier quart du 20e siècle, et puis il va y avoir des enjeux d'ordre géostratégique, et cette volonté, peut-être première pour le monde iranophone ou persan, de vouloir exporter une révolution.
Vous avez entièrement raison, parce qu'en fin de compte, même vu de l'Occident, le wahhabisme ou une certaine interprétation conservatrice de l'islam n'était pas considéré comme étant un danger. Plutôt, on voyait ça avec un regard condescendant, parce qu'en fin de compte, c'était une interprétation quiétiste, et puis qui était l'expression peut-être d'une certaine spécificité culturelle. Et l'Occident s'interdisait donc finalement de s'immiscer. Le danger à l'époque était beaucoup plus finalement les idéologies marxistes. À partir de 79, la donne va changer. Effectivement, donc, l'islam va apparaître sous d'autres atours en étant révolutionnaire. C'est-à-dire, au nom de la religion, on peut changer l'ordre des choses. Et cela va toucher le Maroc, aussi paradoxal que cela puisse paraître. C'est à partir finalement de 79 et des contre-coups de la révolution iranienne qu'on va comprendre qu'en fin de compte, l'instrumentalisation de l'islam n'est pas sans risque. Et c'est à partir de ce moment-là que l'État marocain, par exemple, et j'en ai parlé dans un livre intitulé « L'impasse de l'islamisme », où l'État marocain va jeter les bases d'une politique religieuse dans le sens de contenir finalement les mouvements islamistes. Donc 79 est un tournant fondamental. donc dont l'impact ne sera pas circonscrit finalement à l'Iran. D'autant plus que l'Iran n'a pas caché ses velléités finalement impérialistes. La révolution iranienne se voulait une révolution mondiale. D'abord dans son hinterland, c'est-à-dire l'Irak, où, là où il y avait des minorités chiites. Mais par la suite, les Iraniens n'avaient pas caché finalement donc, d'étendre leur modèle entre guillemets donc, sur tout le monde musulman.
Alors comment expliquez-vous, vous qui êtes un fin observateur, que le slogan creux d'islam est la solution qui a sous-tendu cette révolution-là, a subjugué y compris des intellectuels comme Michel Foucault par exemple?
Ce qui a subjugué Michel Foucault, c'était le phénomène révolutionnaire. Bon, il est parti en Iran, donc on ne va pas trop s'attarder. Il avait écrit toute une série d'articles dans Le Monde, etc. Bon, mais ce qui nous interpelle, en fait, nous qui vivons un peu dans ce monde, effectivement, le slogan « l'islam est la solution » avait subjugué pratiquement des acteurs politiques et intellectuels. Bon, ce n'était que l'interprétation, finalement, du livre de Saïd Qutb, sur la voie où il disait grosso modo qu'en fin de compte le libéralisme occidental est voué à l'échec, et de même que finalement le marxisme n'est pas la solution, voilà, grosso modo, etc. et donc l'alternative ne peut être que l'islam. Et donc finalement, à partir donc de la mort et de l'émergence de l'islamisme après 67, ce slogan va finalement gagner en influence dans tout le monde musulman. Al-Islam ou Al-Hal, l'islam est la religion, bien sûr. Il faudra poser la question, de quel islam vous parlez? Bon, c'est parce que l'islam est susceptible de plusieurs interprétations. Puisque l'islam est la solution, pourquoi il y a tant de divergences parmi ceux qui parlent au nom de l'islam? Si l'islam est la solution, il ne devrait pas y avoir de divergences. Et comment une interprétation, finalement, peut-elle mener finalement à la violence? Comment finalement des interprétations, voire des applications, pourraient se solder par un échec? Donc, et c'est pour ça qu'il me semble, et j'en ai parlé dans un livre, que le dernier congrès de la Nahda en Tunisie a été un élément, un tournant.
Ceci, le mot Nahda, c'est quand il a été capté par un parti politique.
En Tunisie, donc présidé par Rachid El-Ghannouchi, etc., où on a parlé pour la première fois de la dissociation de la fonction de prédication et de la fonction politique. Donc c'est en quelque sorte, finalement, les prémices d'une sécularisation. Mais ce qui est plus important, c'est que l'un des dirigeants de cette mouvance, de ce parti, Abdel Fattah Mourou, avait dit clairement que l'islam est la solution est un slogan creux. Bon, venant d'un islamiste. Donc je pense que quelque part, là nous sommes peut-être à l'oreille d'une évolution. Il me semble que quelque part, autant finalement on a vécu de 67 jusqu'en 2016 avec pratiquement donc ce slogan « l'islam est la solution » qui a galvanisé des acteurs, des foules, etc. Autant peut-être nous sommes à l'oreille d'une nouvelle phase avec peut-être, du moins je le souhaite, une séparation entre la charge politique et la prédication religieuse.
Hassan Aourid, pourtant il y a eu, le pourtant n'est pas une restriction, une révolte, qu'on a appelé un printemps, dont les mots d'ordre étaient d'ordre laïque, c'est-à-dire la dignité humaine, la justice sociale, la démocratie, halte aux discriminations, halte à l'oppression, il ne faut pas que l'opulence côtoie la misère, l'écure répartition des richesses. Il n'y avait pas dans ces soulèvements-là un projet ou un contre-projet social et politique sous-tendu par une vision religieuse. Comment cela a été détourné, selon vous, dans un premier temps?
Il y a eu détournement. Je pense que vous n'avez pas tort de dire qu'il y a eu détournement. Parce qu'en fin de compte, ceux qui avaient initié ce mouvement étaient plutôt des mouvements qui croyaient en des valeurs universelles. Liberté, justice sociale, dignité. C'était les mots d'ordre qui revenaient un peu partout. Dans la place Tahrir ou l'avenue Bourguiba, à Tunis, ou à Rabat, ou partout. Donc c'était finalement... Il se trouve que les islamistes étaient les mieux organisés. Ce n'étaient pas les islamistes qui étaient finalement les initiateurs de ce soulèvement, ou de, finalement, mais c'était les islamistes qui ont pu finalement canaliser à leur profit pratiquement ce mouvement social. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient les mieux organisés, incontestablement. Il faut se rappeler, puisque nous avons parlé de Rafah al-Tahtawi, que pratiquement les photos qui revenaient en Égypte, donc dans le mouvement Tamarrud,
rébellion
donc contre les islamistes ou contre l'islamiste Mohamed Morsi, bah, les photos qui revenaient, c'était celles de Rafah al-Tahtawi, donc le fondateur de l'Égypte moderne, et Taha Hassin, donc le père spirituel, enfin celui qu'on appelle le Voltaire arabe, donc le père du libéralisme, en fin de compte. Donc c'était les deux photos. Donc il me semble que l'espoir est permis. Bien sûr, la situation est désolante, incontestablement, mais il ne faut pas désespérer. Et il me semble, et je fais mienne, l'analyse qui a été faite par un Jordanien qui était ministre des Affaires étrangères, Marwan Maachar, qui a écrit un excellent livre en anglais, Le Second Éveil arabe. Je ne sais pas s'il a été traduit en français, où il dit ceci, comme quoi le premier éveil, c'est-à-dire celui donc du la première partie du XXe siècle, était l'effet des élites sans les masses. Celui donc conséquent au printemps arabe était l'effet des masses sans les élites. Il est fondamental que les élites s'acquittent de leurs tâches. Je pense aux élites essentiellement intellectuelles, bien sûr, sans finalement dédouaner les élites politiques. Mais je mets mon espoir sur les élites intellectuelles. Je crois que c'est le maillon marquant, finalement. On n'a pas abordé cette phase avec une représentation, avec une philosophie, avec une vision. Bon, il y avait une effervescence, mais sans finalement, pas des réponses, mais du moins pratiquement des problématiques sur des questions quand même sur lesquelles le monde arabe devrait répondre. L'État, la notion de l'État, par exemple. Comment, par exemple, aborder les choses relatives à l'économie, c'est-à-dire le rapport travail et capital, le rapport, par exemple, production et distribution. Sur tous ces plans-là, le monde arabe est absent. La question de l'éducation. Bon, le grand chaînon marquant, c'est pratiquement l'homme nouveau que nous voulons. Et là, nous sommes encore sous l'emprise de la tradition.
Alors, il y a tous ces aspects-là, et ce qui sous-tend les questions éducatives, à côté des questions économiques et éminemment politiques comme les institutions, il y a aussi les aspects culturels et artistiques. Quand vous évoquez le mouvement Tamarrud, rébellion contre l'islamiste Morsi, il y avait aussi cette nostalgie de revenir à une époque où on avait connu la diva Oum Kalthoum qui apparaît maintenant inexistante. Et donc certains Égyptiens et certains Arabes, et par-delà des Arabo-musulmans ou non, ne comprenaient pas pourquoi l'Égypte et d'autres connaissent cette régression tragique.
Il y a une régression. Il y a une régression incontestablement. Et je vous renvoie, j'en parle dans mon livre sur ce rapport donc, qui a été rendu par la CNUSED donc, et fait par, initié par les Nations Unies sur le développement humain dans le monde arabe. C'était en 2002, où pratiquement donc, tous les indices étaient au rouge sur le plan économique, sur le plan politique ou de la gouvernance, sur le plan social, c'est-à-dire essentiellement la place des minorités et de la femme, mais aussi sur le plan de l'éducation. Donc, d'abord, il y a des données objectives, c'est-à-dire qu'en fin de compte, plus de 50% dans le monde arabe ne savent pas lire et écrire. Deuxième élément, c'est qu'en fin de compte, la qualité de ce qui se lit laisse à désirer. La quantité même, pratiquement, reste modique, c'est-à-dire que le monde arabe qui compte potentiellement 300 000 de locuteurs, etc., et virtuels, produit moins qu'un pays comme 300 millions. Moins que la Grèce.
Ou la Turquie.
On ne peut pas se comparer à la Turquie. Loin de là, on n'est pas dans cet ordre. Je suis en train de parler de la Grèce qui compte 9 millions. Donc, le monde arabe, dans toute sa globalité, produit moins de livres que la Grèce. Abstraction faite de la qualité de... Donc, quelque part, il y a un problème. Il y a un problème fondamental et je ne pense pas qu'on puisse finalement considérer pratiquement la chose culturelle comme étant finalement un superflu. Bien sûr que la culture n'est pas que entertainment, l'amusement, c'est plus que cela. La culture, c'est d'abord une fonction de réflexion. Or, le grand absent, c'est en fin de compte pratiquement la réflexion et la pensée. Ceux qui sont capables de réfléchir sont obligés finalement de s'expatrier pour finalement réfléchir sereinement. On ne peut pas réfléchir sereinement. On n'a pas les conditions objectives pratiquement pour réfléchir sereinement sur les problèmes qui interpellent. Et quand bien même on le fait, il y a une forme d'abysse avec le public. Les gens ne lisent pas. Un best-seller, c'est 3000 exemplaires. Je parle d'un pays comme le Maroc, etc. Et la chose est similaire même en Égypte. J'ai eu l'occasion de discuter avec des écrivains égyptiens qui m'ont dit comme quoi pratiquement le même phénomène est perceptible même dans ce grand pays qui est l'Égypte.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec l'intellectuel marocain Hassan Aourid. Hassan Aourid, vous êtes politologue, écrivain, historien, ancien porte-parole du Palais Royal pendant 6 ans sous le règne toujours de Mohamed VI. Aujourd'hui, nous passons en revue avec vous les causes, votre ouvrage qui nous sert comme base de discussion aux origines du marasme arabe, aux éditions Tousna, le met en exergue. Nous parlions aussi de la fin des idéologies laïques. Et si nous dépassions, si vous voulez bien, après ce diagnostic juste que vous faites, et afin de lui trouver une bonne médication, le cadre arabe, comment expliquez-vous aussi que la greffe islamiste ait pu prendre au Pakistan ou dans certaines régions du monde non arabe? C'est-à-dire on n'est plus dans la partie centrale, mais plutôt périphérique au sens historique du terme, puisque la démographie fait que le centre de gravité se trouve en insulinde.
Bah, vous avez parlé du Pakistan. Il me semble, sans être au fait des spécificités culturelles et politiques du Pakistan, que quelque part, l'acte fondateur du Pakistan est d'abord un référentiel identitaire, religieux. C'est pour se différencier par rapport à l'Inde. Donc, quelque part, pratiquement, le Pakistan, donc le substrat finalement référentiel, était religieux. Najah était laïque. Il me semble que l'hymne national donc, a été rédigé par Mohamed Iqbal,
qu'on appelait le Victor Hugo indien avant de parler de Pakistan.
Voilà, donc quelque part, de même que Maududi, etc., par opposition finalement à l'hindouisme, etc. Je crois que dans des moments finalement, de méprise, de choc culturel, les canons religieux servent comme finalement une référence identitaire. Ça peut être la langue, ça peut être, la culture, comme par exemple pour... l'Allemagne au XIXe siècle par opposition aux valeurs universelles des Lumières, etc. Dans le cas d'espèce, c'est la religion qui sert de viatique et d'exutoire à ce qu'on considère comme étant une agression. Mais ceci étant, d'une certaine manière, même si sur le plan numérique, le monde arabe est pratiquement minoritaire par rapport aux autres, il demeure marquant, déterminant sur le plan culturel. Pas dans le bon sens, mais en fin de compte, pratiquement, donc, tout à l'heure, nous parlions de Sayyid Qutb, donc, qui est le concepteur de l'islam radical. Il était égyptien. Donc, quelque part, le monde arabe garde en quelque sorte, entre guillemets, un avantage comparatif, tout en étant minoritaire par rapport, aux grandes nations de l'islam, l'Iran, l'Indonésie, etc. Bon, bien sûr, mon intérêt porte beaucoup plus sur le monde arabe. Donc, mais puisque vous aviez parlé du Pakistan, donc l'acte fondateur renvoie finalement donc à la religion par différenciation par rapport à l'Inde.
Bien. Dans cette dernière partie de l'émission, comment voyez-vous les choses dans ce clair-obscur, comme l'aurait dit Antonio Gramsci, quand le passé se meurt et le futur n'est pas encore advenu, c'est dans le clair-obscur que peuvent surgir les monstres. Et nous y sommes, il y a plus qu'une monstruosité idéologique et religieuse qui sévit au Proche-Orient. Vous pensez que les solutions sont internes et à la recherche de cet homme nouveau, ou eu égard aussi à la mondialisation, où les cieux sont un peu plus cléments au-dessus des têtes, que les idéaux pour ces états civils, même si l'appellation n'est peut-être pas tout à fait appropriée, peuvent venir, ou c'est une conjonction des deux?
Bah, écoutez, je commencerai par l'adage « Et toi, le ciel t'aidera ». Il est fondamental qu'on se penche nous-mêmes sur nos mots. On ne peut pas, à mon sens, jeter l'anathème sur l'autre. C'est la solution de facilité. Quand bien même l'autre pourrait être responsable. Mais d'abord, parce que d'autres, finalement, ont réussi. Et qui étaient aussi soumis aux mêmes contraintes, sinon pire. Je pense à l'Inde, je pense à la Chine, en fin de compte. Donc, il ne faut pas finalement sombrer dans une forme, disons...
victimaire et misérabiliste.
Absolument, ou narcissique, en fin de compte. Mon rêve, mon idéal, etc., bon, c'est le Maghreb. Je ne peux pas parler du monde arabe. Je l'ai étudié parce qu'en fin de compte, il fallait comprendre l'impact de grandes idées, finalement, qui ont secoué le Moyen-Orient sur le Maghreb. Mais ma foi, en fait, elle porte sur le Maghreb, donc qui est une entité culturelle, j'allais presque, qui a le même substrat sur le plan culturel, etc. Je pense qu'il devrait avoir le même devenir. Et je pense aussi dans un rapport plutôt vertical, donc avec des relations privilégiées, étroites, avec notre pourtour méditerranéen, c'est-à-dire essentiellement l'Europe latine, avec laquelle sur plus de 2000 ans, 3000 ans, je pense essentiellement, pas seulement à l'ère islamique, bon, mais je pense à l'ère phénicienne, et romaine. Donc, pratiquement, l'Afrique du Nord faisait partie, finalement, de la même entité que l'espace nord de la rive de la Méditerranée. Voilà un peu l'espoir que je nourris. Je reste, parce que nous sommes condamnés par l'espoir, malgré, finalement, l'État qui prévaut. L'espoir est permis. Il faut œuvrer que cet espoir soit une réalité. Je terminerai par... ce vers de Novalis, qu'on nous rêvons que nous sommes en train de rêver, l'heure du réveil est proche. Voilà, j'espère qu'on s'en sortira.
Oui, je le crois aussi. Un de vos prédécesseurs ici à ce micro disait, bon, c'était Mathieu Guider qui pour lui a fait cette prédiction, que bon, pour une génération, ce serait un terrible sacrifice, mais à l'échelle du temps long, c'est peut-être une affaire d'une génération ou deux pour ressortir à la fois de l'ornière et du marasme. Donc il n'est pas inscrit d'une manière intrinsèque au génome de l'être arabe ou de l'homo islamicus d'être à jamais soumis à ces tentations de violence et dans une vision dégénérée de la vie et de la politique.
D'abord, je crois que nous sommes en train de vivre un double phénomène. La géographie s'est rétrécie Donc, ce qui se passe ailleurs nous interpelle et peut nous impacter. Et il y a une accélération de l'histoire. Donc, on ne peut pas finalement réfléchir et procéder par les mêmes paradigmes qu'il y a de cela un siècle. Et c'est pour ça que je garde espoir. Je suis agréablement surpris parce que je lis, j'entends, et ici et là, au Maghreb. Et il faut être à l'écoute, finalement, des voix inaudibles. Et je pense que c'est ces voix, finalement, qui portent et qui sont porteuses d'espoir. Et notre travail à nous, en fin de compte, nous qui, finalement, embrassons des idées, c'est un peu jouer ce rôle de sage-femme, permettre, finalement, à ce corps d'accoucher sans heurts, en fin de compte. C'est ça, notre travail. Nous sommes pas, nous pouvons peut-être féconder, mais dans l'état d'espèce, je pense que le corps est prégnant. Et notre travail, c'est de permettre finalement un accouchement sans heurts. Voilà.
Outre cette maïeutique à laquelle il faut contribuer et y participer, j'aurais une dernière question, c'est Hassan Aoulid. Comment voyez-vous le cas maghrébin qui vous tient à cœur? Vous pensez que l'institution de la commanderie des croyants est bonne et idoine? Il y a lieu d'aller vers plus de parlementarisme et une monarchie constitutionnelle, des choses comme ça pour le cas marocain, mais dans cette région...
Vous m'avez posé la question sur le Maghreb, restons sur le Maghreb. Je voudrais que tout simplement qu'il soit permis aux élites du Maghreb de se rencontrer, de se parler. Je crois en la société civile de ces trois pays. Avant, peut-être, elle n'avait pas et ne pouvait pas avoir l'effet escompté. Elle était sous l'emprise de régimes très forts, pour ne pas dire autre chose. Je crois que l'espoir est porté et devrait être porté sur les sociétés civiles. Il est malheureux qu'en fin de compte, qu'on ne se reconnaisse et qu'on ne se rencontre qu'à Paris ou ailleurs. Il est fondamental que pratiquement les intellectuels, les hommes politiques, les chercheurs, les journalistes des trois pays, en fin de compte. C'est ce qui m'interpelle le plus, Maroc, Algérie et Tunisie. C'est sur, finalement, cette crème que je mets un peu mon espoir, et elle le fera.
Et votre espoir est tout à fait fondé. Il faut que ces frontières artificielles puissent être subsumées et qu'ils n'ont plus aucune raison d'être.
Les frontières sont d'abord dans les esprits. Il faut d'abord pratiquement les déboulonner dans les esprits, oui. Avant même finalement les déboulonner pratiquement dans les espaces géographiques.
C'est dans l'esprit des hommes que naissent les cultures de paix, et parce que c'est dans l'esprit des hommes que naissent aussi les mentalités de guerre. J'essaie de paraphraser la devise de l'UNESCO. Merci beaucoup Hassan Aoulid, merci de nous avoir instruits par vos propos. Qui, je le rappelle, sont une compilation de cours que vous donnez à l'Institut d'études politiques de Bordeaux, et vos étudiants en Sciences Po vous en savent gré. Maintenant, ce sont les auditeurs de l'émission Questions d'Islam sur France Culture. Vous êtes politologue, écrivain, historien, ancien porte-parole du Palais Royal, et vous nous avez parlé, entre autres, des origines du marasme arabe. Chers amis auditeurs, vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est toujours Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Claude Niort et la réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lilin. ماذا يطلب؟
وحلق يا غراب.